Et c'est parti donc avec vous, Joël et Mickaël. Et donc, Joël, tu vas commencer par introduire un
Moi
petit peu
d'abord.
qu'est-ce que la culture chrétienne?
Ouais, alors je vous ai préparé un gros programme aujourd'hui.
Ouh là là.
Je vais vous bombarder d'informations.
Donc, écouteurs,
Auditeur,
auditeurs, écouteurs, tout le
ça
monde
va être
derrière
dur,
votre
ça va être
radio,
très dur aujourd'hui.
accrochez-vous.
Donc, on va déjà essayer un petit peu de définir, de savoir qu'est-ce que ça pourrait être la culture chrétienne. Apparemment, la culture chrétienne, ce serait pas la même chose que le christianisme. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est? Et lorsque nous avons réussi peut-être à savoir de quoi il s'agit, on fera ensuite une espèce de petit cas pratique. On va s'intéresser à un élément un peu typique de cette culture chrétienne. Et en particulier en parlant d'un auteur américain qui s'appelle Anne Rice, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et enfin, j'interrogerai un peu Mickaël afin de démêler le vrai du faux concernant certains faits communément admis dans, entre guillemets, le milieu de la culture chrétienne.
Donc,
Donc le
Mickaël,
tout, bien sûr, avec des cliffhangers de folie avant chaque pause musicale.
comme tu sais si bien les faire.
Exactement.
Bon ben, patience, Mickaël, mais ton tour viendra.
Oui, oui, j'écoute avec la plus grande
Il
attention.
Écoute bien.
Prends des
Découvrons
notes.
pour l'instant.
Alors, en fait, la culture chrétienne, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, puisque si vous vous consultez un petit peu des blogs, surtout sur les blogs américains, on parle beaucoup de Christian culture, voilà, la culture chrétienne.
Oh yeah.
Donc, on va essayer de savoir d'où vient cette idée. C'est quelque chose qui revient assez souvent, et souvent d'une façon assez négative. Donc, par exemple, moi, j'ai juste, pour illustrer mon propos, sélectionné une citation. De Marcus Mumford. Donc, qui est Marcus Mumford?
C'est le chanteur de Mumford & Sons.
C'est ça, le leader de Mumford & Sons, donc qui est un groupe de folk britannique. Accessoirement, c'est aussi le fils d'un leader évangélique britannique très connu, John Mumford, qui était responsable des églises Vineyard en Angleterre.
Qui est toujours,
enfin, qui est toujours d'ailleurs. Et donc, Marcus Mumford, donc, qui est quand même le groupe qui a raflé je sais pas combien de Grammy au dernier Grammy Award, etc.
Des BAFTA aussi.
BAFTA, ouais. Concert sold out en France au mois de mars.
En fait, il cartonne, quoi.
Il cartonne.
Dit vite fait.
Donc, il a donc donné une interview à Rolling Stone en mars. Et il disait, j'ai une opinion personnelle sur la personne de Jésus et sur ce qu'il était. Mais le mot chrétien enveloppe trop d'images religieuses que je n'aime pas. Donc, je me sépare de la culture chrétienne. Bam. En fait, on comprend très vite dans ce genre de propos que la culture chrétienne, en fait, ça n'a rien à voir directement avec Jésus ou la foi en tant que telle, mais plutôt avec toutes les pratiques, toutes les façons d'être et tout un mode de pensée qui est véhiculé plutôt au sein du christianisme que directement lorsqu'on parle de Jésus ou autre. Donc ici, on ne parle pas donc, directement ni de Jésus, ni même de la Bible. On parle souvent de tout un tas de comportements en fait, qui réunissent les chrétiens entre eux pour créer en fait, une sous-culture comme connaître plein d'autres sous-cultures. Donc c'est une culture d'ailleurs qui est plus sous-culture, qui est d'ailleurs plus ou moins bien perçue, car déjà elle est minoritaire. Par exemple, surtout en France, c'est quand même... très minoritaire, c'est souvent très mal compris par le commun des mortels. D'ailleurs, on voit régulièrement qu'on a droit à des enquêtes à la télévision sur le phénomène, les évangéliques, qu'est-ce que c'est. Il y a des livres qui sortent là-dessus. Récemment, il y avait encore un reportage, je crois que c'était sur France 5, réalisé par Serge Moati, où souvent, c'est une sous-culture qui est carrément rejetée parce qu'on la trouve peu authentique et finalement très éloignée des préceptes de Christ. Donc, entre autres, Marcus Mumford qui dit ben, « je me sépare de la culture chrétienne », alors que pour lui, finalement, il a baigné dans cette sous-culture étant fils de pasteur. Donc, on peut se dire qu'il sait quand même un petit peu de quoi il parle. Et donc, en fait, on pourrait faire toute une série de chroniques en fait, pour essayer de définir complètement, finalement, qu'est-ce que c'est un petit peu que cette culture chrétienne, etc. Mais moi, j'ai choisi juste un élément. Assez caractéristique de cette sous-culture. Et donc, pour rester dans le domaine de la littérature, qui est un peu mon domaine fétiche ici, donc qui est les drôles d'oiseaux, j'ai choisi un exemple avec Anne Rice, qui est une auteure hein, qui est assez emblématique de la fin du XXe siècle. Donc, ce petit phénomène que j'ai voulu un petit peu étudier ce soir avec vous, c'est la sous-culture chrétienne qui aime avoir des porte-drapeaux. Donc, qu'est-ce que c'est un peu ce phénomène du porte-drapeau ? C'est quelqu'un de connu qui affirme sa foi auprès du grand public, quelqu'un qui s'est converti, quelqu'un qui, du coup, porte haut les couleurs du christianisme dans les médias, donc à la télé, dans les journaux, etc., dans les réseaux sociaux, etc. Donc, on peut penser... par exemple, à des sportifs, il y a eu Marie Pierce à Roland-Garros, c'est la période du tennis en ce moment, donc qui avait dédié sa victoire à Roland-Garros, à Jésus, etc. Il y a aussi multiples joueurs de foot brésiliens qui jouent au PSG ou ailleurs, qui parlent pareil, de la même façon, sans complexe de leur foi. Aux États-Unis, ils ont Tim Tebow, qui est, donc à ne pas confondre avec Ben et Tebow. Ouais, parce que ouais. Je voulais aussi faire un petit jeu de monaze.
C'est quarterback.
C'est un quarterback, c'est le petit génie du foot américain qui est fils de missionnaire et qui porte souvent, enfin, même des références bibliques
sur ses joues.
Alors, des autres, ils ont un peu des genres de peinture de guerre. Enfin, ils se griment, mais lui, en fait, il met des versets bibliques. Alors, est-ce que tout ça, c'est gênant? Non, enfin, je pense pas vraiment, finalement. Alors, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, et tant mieux pour eux. Mais à force de chercher des porte-drapeaux, en fait, je pense qu'on peut avoir tendance assez vite à déraper. Un des exemples, je pense que Jean-Philippe pourrait certainement en dire plus que moi, parce que je sais que ça l'a un peu...
Je sais pas de qui tu parles.
Énervé, mais tu vas vite comprendre. Il y a pas très longtemps, je pense, je saurais plus donner la date exacte, mais... un chanteur français, Daniel Darc, est décédé. Tu pourrais peut-être mieux nous dire quand c'était. C'était début de l'année, il me semble,
ouais,
peut-être.
Je crois que c'était au mois de mars.
Voilà. Et tout d'un coup, en fait, on a eu droit à une déferlante sur Facebook, Twitter, etc. Des gens qui se sont mis à parler de lui, à lui rendre hommage. Mais en fait, on ne parlait pas tant de lui. C'était surtout, on disait, mais il s'était converti au protestantisme.
Tout à fait.
C'était un gros camé, c'était un gros alcoolo. Il est mort quand même relativement jeune, parce que je pense que c'était quelqu'un qui était très abîmé. Mais surtout, il s'est converti au protestantisme. Et du coup, là, on en profite pour affirmer son identité en utilisant l'intermédiaire de quelqu'un qui est reconnu et dont on parle dans les médias, justement, parce qu'en plus, malheureusement, c'est quelqu'un qui est décédé. Donc, c'était un peu un exemple... je trouve assez caractéristique de la façon dont on peut un peu utiliser ça. Je trouve pas forcément de façon très gracieuse. Enfin, voilà, je sais pas si tu veux dire quelque chose.
C'est un artiste que j'avais pas mal apprécié, moi, personnellement. Du coup, j'ai commencé à toucher quand il était décédé. Et puis, des gens qui, je me rappelle, avaient critiqué ouvertement l'artiste lorsqu'il était apparu à l'Alliance biblique française pour l'Expo Bible, qui avait critiqué en disant « Ouais, c'est un camé, il est dégueulasse et tout ça », revoir les mêmes personnes dire « Ah, quel grand artiste !» parce qu'il était protestant. Alors, du coup, ça m'avait un petit peu agacé de voir les mêmes personnes qui, 2 ans avant, disaient que c'était un drogué qui volait rien et puis qui après le mettre en avant parce que c'est un artiste reconnu qui s'était converti au protestantisme. C'est ça qui m'avait un peu agacé, personnellement. Voilà. Je n'avais pas trop apprécié.
Donc, on a aussi un petit côté... on va aussi avoir un petit côté un petit peu people. Alors, les people, c'est pas comme les people dans Voici, etc. Donc, le scoop, c'est pas, par exemple, Jean Humbert et Alexandra Rosenfeld sortent ensemble. Même si c'est quand même un peu le scoop du moment. En ce moment, tout le monde en parle.
Jean Humbert, c'est pas un cuistot ?
Ouais, c'est ça. Jean Humbert, le vainqueur de Top Chef, il est avec Alexandra Rosenfeld, l'ancienne Miss France.
Ah, mais c'est magnifique. Tu apprends quelque chose, hein.
Ah ouais, voilà.
C'est bien, dans ta chronique, on apprend des choses.
J'arrive à tout casser, moi.
Ah ouais, c'est trop fort.
Non, mais alors là, c'est plus genre les petites rumeurs. Par exemple, récemment, c'était... vous avez peut-être regardé The Voice.
Non.
Non. Voilà, donc je vais faire mon gros bide avec The Voice. Non, mais en fait, dans The Voice, en fait, le gagnant de The Voice même, qui s'appelle Johan Frigé, il a été, dans The Voice, chanteur de gospel. De là, en fait, ça s'est enchaîné. Des rumeurs ont commencé à courir un peu partout sur le fait que Johan Frégé était chrétien. Donc, il faut que Johan Frégé gagne la The Voice. Et Johan Frégé est chrétien. Le fait, en fait, simplement qu'il chante dans une chorale gospel, il a chanté aussi Amazing Grace en finale, ça a fait que tout d'un coup, plein de gens se sont emballés là-dessus. Alors que finalement, lui, il n'a jamais rien dit à ce sujet. Enfin, pas que j'ai entendu, en tout cas. Et je pense qu'on peut aussi le laisser un petit peu vivre sa vie. De même, le genre « Ah, mais tu sais que Christophe Mahé, il a une choriste chrétienne et elle a donné le numéro de téléphone de son pasteur à Christophe Mahé et Christophe Mahé l'a appelé. »
Super.
Voilà. Donc, voilà, donc du coup, tout de suite, là, il était déjà à deux doigts d'être chrétien. Voilà, donc... je trouve que parfois, en fait, ça frise le ridicule et ça a plus grand-chose, finalement, ni à voir ni avec Jésus, ni à voir avec la foi. C'est juste on a envie d'avoir des gens connus qui se réclament hein, de notre sous-culture ou de notre drapeau. Ou, voilà.
Mais donc, ce qui est encore plus fou, c'est qu'en France, on prône quand même la laïcité et la sphère privée de la foi. Et on essaye d'exposer à la vindique populaire...
C'est...
des célébrités. Enfin,
je dirais c'est pas français hein, c'est genre en France c'est minime parce que la culture chrétienne elle est encore beaucoup plus minoritaire qu'ailleurs, mais aux États-Unis enfin Tim Tebow c'est un truc de dingue, enfin genre on te dit voilà il a dit ça genre il est autant pris en compte que des pasteurs ou genre il était dans le top 50 des 50 chrétiens les plus influents des États-Unis ouais. Alors qu'il est quarterback enfin qu'il est sportif et qu'il a jamais prêché, enfin voilà, c'est, moi je trouve, enfin quelque part pour moi c'est quand même des choses qui sont aberrantes. Après je veux dire qu'il soit chrétien super qu'il ait envie de parler de sa foi, mais je veux dire tant mieux pour lui, mais que tout d'un coup à cause de ça on donne une importance à des gens voilà, enfin je trouve ça totalement démesuré, d'autant plus que comme on va le voir dans la suite de ma chronique les gens qu'on a mis à un moment donné sur un piédestal tout aussi vite quand ils répondent pas en fait à des attentes préconçues qu'on a sur la façon dont ils devraient se conduire parce que maintenant ils sont un peu nos propres drapeaux, en fait on les brûle aussi vite qu'on les a mis sur un piédestal. Donc, dans la deuxième partie, je vais vous parler d'Anne Rice et c'est un petit peu ce qui lui est arrivé, en fait.
Ok. Bon, bah, merci pour cette...
cliffhanger.
Cette petite introduction et ce cliffhanger de malade. Et puis, bah, on va s'écouter un petit morceau et donc, on va se retrouver après pour parler donc, d'Anne Rice et savoir, mais qui, oh, yeah. Que lui est-il arrivé ?
C'est ça.